J'ai quand même pas mal de cyclistes qui viennent ou que je suis, qui sont hyper focus sur leur valeur de watts, sur le temps de pourcentage qu'ils pourraient avoir sur un capteur de puissance à l'extérieur, à l'intérieur, et l'importance qu'ils mettent là-dessus, qui, voilà, certes est intéressante, et puis je pense que ça apporte beaucoup hein, sur l'entraînement, mais qui oublie aussi de s'écouter un peu et puis d'essayer de remettre un petit peu ces valeurs-là dans un contexte voilà, avec des valeurs de, pardon, de fréquence cardiaque ou de ressenti.
Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif amateur, athlète compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode.
Salut Amélie, bienvenue sur le podcast, comment tu vas?
Salut Sean, bien, bien, merci et toi?
Bien, c'est un plaisir de enfin te recevoir. On a eu l'opportunité de collaborer dans le passé, en personne. Tu es aussi venu sur la chaîne pour parler un petit peu du travail qu'on avait fait avec les Moxie, notamment en altitude. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir ce petit échange qu'on a vu avec Amélie. Mais pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur toi, qui tu es et que fais-tu?
Ouais, merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est vraiment un honneur, c'est cool de pouvoir faire partie de ta communauté, donc trop cool. Moi, j'ai fait des études de sciences du sport à l'université de Lausanne, donc je viens plutôt à la base de l'Uni. Puis après, j'ai rapidement été projetée un peu sur le terrain dans un job à Motion Lab, qui est un grand centre de sport, en fait, où j'étais responsable de la performance en endurance. Où j'ai mis en place un peu la partie laboratoire testing. Et puis, on avait deux chambres d'altitude et de chaleur où j'ai aussi pu travailler avec tout ce qui est environnement extrême. Et puis là, maintenant, depuis quelques mois, depuis cet été, je me suis lancée à mon compte comme préparateur physique. Enfin, je fais passer des tests d'effort, je fais des plans d'entraînement, du coaching. Et puis, à côté, je suis aussi à la haute école de santé où je fais un peu de recherche, plutôt avec des patients. Et puis je donne aussi des entraînements et des cours de ski de fond. Donc voilà.
Super, t'as un emploi du temps qui est bien chargé comme nous tous. J'aimerais commencer à parler un petit peu par la recherche que tu fais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quels sont tes sujets d'investigation?
Oui, alors là j'ai commencé, bon, ça fait une année, sur une étude pilote de faisabilité chez des patients qui font de l'apnée du sommeil. Et puis là, on essaie de monitorer à distance ces patients-là, ces patients qui font de l'apnée du sommeil. Ils ont souvent une thérapie qu'on appelle CPAP, qui leur permet d'ouvrir en fait les voies respiratoires supérieures et d'éviter qu'il y ait un collapse en fait au niveau des voies respiratoires, qui crée généralement ces apnées-là. Et ces patients-là, bah, ils ont un traitement qu'on appelle CPAP, et on monitore ces patients-là au travers de leur prise en charge. Via deux outils connectés, un bracelet qui mesure la tension artérielle, qui est un nouvel outil suisse, et puis un autre outil qui est un actigraphe, au fait, qui mesure le sommeil et l'activité physique journalière. Puis on essaie de voir un peu, bah, voilà, quelles sont les tendances, comment évolue la tension artérielle, le sommeil, les phases de sommeil, l'activité physique, pour optimiser la prise en charge de ces patients-là. Voilà.
Super intéressant, ça s'en est où, ça avance bien?
Oui, ça avance. Là, voilà, on a terminé l'étude pilote, qui était uniquement une étude un peu observatoire, sans analyser concrètement les résultats. Et puis l'objectif, c'est de pouvoir voilà, tester ça sur un plus grand nombre de patients pour pouvoir vraiment évaluer les synergies possibles qu'il y aurait entre les différents paramètres qu'on évalue.
Qu'est-ce que ça peut apporter, ce monitoring à distance par rapport aux pratiques actuelles dans ce cadre-là?
Bah, je pense que jusqu'à présent, les patients, ils étaient chaque fois, enfin, comment, sous une thérapie qui était standardisée, enfin, plus ou moins la même pour tous. Et puis, bah, finalement, d'arriver à monitorer leur sommeil, à voir en fait comment évoluerait la tension artérielle chez certains patients, et ça permettrait d'optimiser justement cette prise en charge, en ayant à plus ou moins moyen terme des recommandations de prise en charge un peu plus adaptées, que ce soit ben, liées plutôt à l'activité physique, plutôt à voilà à des à du à, plutôt à se focaliser sur du sommeil, sur voilà ça, justement de pouvoir individualiser la prise en charge de ces patients, qu'on fait jusqu'à présent pas vraiment, quoi, finalement.
C'est intéressant. Donc, l'individualisation des prises en charge, elle commence on va dire, passer du côté sport au côté santé aussi, où on essaie d'avoir une approche un petit peu plus individuelle et plus cohérente.
Ouais, clairement.
Ok,
Alors
super
voilà.
intéressant. Qu'est-ce que tu espères voir dans ce domaine dans les années qui viennent au travers de tes recherches et des autres qui sont en cours?
Bah, je dirais que dans un monde idéal, ce serait d'arriver à implémenter une sorte d'intelligence artificielle. Voilà, c'est un petit peu ce qui se fait hein, dans tous ces outils connectés où on essaye de rassembler le max de paramètres sur une plateforme commune pour avoir enfin, essayer de voir un peu les tendances de chacun. Et puis ce serait d'avoir justement une plateforme d'intelligence artificielle. On arriverait à dire, bah voilà, Monsieur X bénéficierait plus d'activité physique ou à une glycémie trop importante, donc ce serait plutôt sur la nutrition qu'il faudrait travailler. Enfin voilà, des choses comme ça, quoi. Puis d'arriver à vraiment avoir une prise en charge qui soit ouais, managée au mieux et puis avec des coûts moins importants. Puis des gens qui éviteraient d'être je sais pas comment on dit, prendre trop de médicaments au quotidien.
Surmédicamenté.
Ouais, voilà,
Je crois
c'est un
pas
peu
que ce soit
ça.
un mot, mais on essaye.
Voilà, on se comprend, quoi.
On se comprend exactement. Qu'est-ce que tu as pu retirer de cette facette de tes activités et peut-être transférer sur le côté un petit peu plus sport, performance? Est-ce qu'il y a un transfert? Est-ce qu'il y a des connexions intéressantes que tu as trouvées?
Alors, je dirais que, ouais, enfin, disons que l'étude que je mène par rapport à ce que j'ai fait ou ce que je fais avec les sportifs, ça reste un petit peu ben voilà, dans l'analyse ou de différentes variables physiologiques que j'ai pratiquées jusqu'à présent. Après, c'est une population complètement différente, qui, je pense, est très différente sur le fait que l'adhérence ou le. Peut-être, je ne sais pas, la structure de ces gens-là au quotidien est peut-être plus compliquée à mettre en place que chez des sportifs. Et puis, c'est justement ça qui est aussi intéressant, mais différent. Chez des sportifs, on a envie de tester un truc, alors on leur implémente un programme, puis le programme, il est fait plus ou moins normalement. Et puis après, on arrive à voir les effets. Et puis, chez des patients, c'est quand même autre chose. Ça prend peut-être un peu plus de temps ou ça doit être mené peut-être différemment avec un peu plus de. Voilà.
C'est vachement intéressant. Donc, tu as dit que tu as lancé ton activité indépendante récemment en matière de tests d'efforts, de profilage, de coaching, d'entraînement. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette aventure? Comme tu as dit, tu avais déjà une expérience préalable avec ce monde-là.
Ben parce que j'ai beaucoup beaucoup appris dans mon ancien poste à Motion Lab. Là, on avait des activités très très variées. Et puis à un moment donné, ben j'avais envie de, enfin j'avais l'impression d'avoir emmagasiné plein de choses. Et puis j'avais envie de tester de mon côté sur mon propre chemin, je dirais. Et puis voilà. Puis ben, je me suis lancée gentiment cet été, hein, sans trop prendre de risques, je dirais. Parce que bah voilà, j'ai quand même un 60% à côté. Et puis à côté, j'essaie de gentiment utiliser un à deux jours par semaine pour ça. Au début, c'était plutôt de proposer des épreuves d'effort, parce que c'est quand même ce qui m'intéresse, quoi, de travailler avec de la physiologie, des sportifs en présentiel, c'est assez cool. Et donc voilà, ça a été de proposer ça, des épreuves d'effort. Alors voilà, c'est pas des choses qu'on arrive à avoir enfin, tous les jours régulièrement, et pas tous les sportifs qui font les épreuves d'effort toutes les semaines. Mais c'est une activité que j'essaie de développer. Et puis après, bah, de proposer aussi des plans d'entraînement, des cours, du coaching, des cours de ski de fond. Enfin, c'est des choses, par exemple, des cours de ski de fond que je n'avais pas le temps de proposer avant. Et puis là, bah, c'est l'occasion justement de, voilà, d'avoir le temps de manager mon temps comme je veux en fonction des dispos que j'ai. Ça, c'est cool, quoi.
On en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais tu es donc entraîneuse et formatrice pour moniteurs de ski de fond et
Exact, ouais.
pratiquante aussi de
Exact.
ski de fond. Donc on reviendra là-dessus pour rester sur le sujet des tests d'effort. Si tu dois présenter, expliquer un test d'effort à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, comment est-ce que tu abordes le sujet?
Alors, un test d'effort, ben, c'est un test, enfin, c'est en fait une procédure où on évalue plusieurs paramètres physiologiques, notamment à l'effort, donc sur un vélo. Moi, c'est principalement sur des efforts de type endurance, donc ce sera sur vélo, sur home trainer, sur tapis de course. Et puis ben, pendant l'effort, on va mesurer un certain nombre de paramètres autant subjectifs qu'objectifs. Là, ça dépend un peu le matériel qu'on a à disposition, hein, mais moi j'ai la chance là où je fais passer mes tests d'avoir un matériel qui permet d'évaluer les échanges gazeux, donc la ventilation. notamment la consommation d'oxygène, production de CO2 pendant l'effort, de mesurer la fréquence cardiaque, l'évolution de la fréquence cardiaque, et puis de la lactatémie, donc aussi ce qui se passe au niveau musculaire chez le sportif, sur un effort qui commence au début assez léger, enfin sur une intensité légère, puis progressivement on augmente l'intensité jusqu'à épuisement si possible, pour voilà, évaluer l'évolution et la cinétique de tous ces paramètres-là pendant l'effort. Et de pouvoir après, chez ces gens-là, leur prescrire des zones d'entraînement, leur montrer voilà, la topographie de l'évolution de leur physiologie sur l'effort, et puis pouvoir mieux comprendre aussi son métabolisme pendant l'effort, quoi, je pense que c'est ça l'objectif
Ça, c'est le
principal.
dernier point que tu as relevé, c'est très intéressant parce que je trouve que de plus en plus, c'est ce côté-là. Alors, peut-être pas en priorité, mais c'est presque 50% de l'histoire. Les gens, ils veulent comprendre comment ça fonctionne. Et le fait qu'on puisse mesurer les choses et leur montrer, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. Tu trouves ça aussi?
Ouais, c'est ça. Je pense que bah, voilà, tout le monde s'entraîne. C'est facile de mettre une paire de baskets et d'aller courir. Et puis, enfin, peut-être au fur et à mesure, on a des sensations musculaires, ventilatoires qui sont plus ou moins intéressantes et qu'on découvre ou pas. Mais voilà, d'arriver à mettre des chiffres et des valeurs objectives sur des sentiments et des perceptions qu'on a à l'effort, c'est ça qui aussi qui nous permet de mieux se connaître. Et puis de progresser, d'arriver à mettre des chiffres et puis pouvoir se situer aussi. Sur son état de forme, et puis voilà, dans un moyen court terme, de pouvoir aussi évaluer et comparer ses performances, quoi.
Je pense que vu ce que tu dis là, on comprend tous les deux et on est sur la même longueur d'onde quand on parle du RPE, de la perception de l'effort et de son importance. Quand quelqu'un te dit, ouais, mais le RPE, c'est subjectif, donc ça sert à rien, qu'est-ce que tu leur dis?
Bah, je suis pas trop trop d'accord avec cette phrase-là parce que moi justement souvent je demande aux athlètes que j'entraîne d'essayer de mettre des chiffres de perception sur des valeurs, par exemple sur de la fréquence cardiaque, des gens qui vont courir avec une ceinture de fréquence cardiaque. C'est important d'arriver à se dire, ok, ben maintenant je sais que quand je suis en endurance, j'ai tant enfin telle valeur de fréquence cardiaque, comment est-ce que je me situe finalement? Puis il y a des jours aussi où on est plus fatigué que d'autres. Ça sert à rien de s'obstiner à uniquement se baser sur des chiffres de puissance ou de vitesse, mais le ressenti subjectif, il est aussi important. Puis dans la fatigue, c'est souvent ça qui ressort comme étant quand même le plus pertinent parfois, au-delà des valeurs purement objectives, externes, quoi, finalement.
Ouais, c'est très intéressant. J'ai eu ce même switch il y a, je dirais, un an en arrière, mais ça se consolide de plus en plus au cours du temps. Plus le temps avance et plus je mets d'importance sur la perception. Et oui, avoir les valeurs physio, c'est intéressant, c'est cool, on voit ce qui se passe, on comprend, mais faire le lien entre ce qui se passe en interne et ce qui se passe, on va dire, entre les deux oreilles, c'est d'autant plus important. Et beaucoup de gens qui sont encore très déconnectés de leur corps et qui ont de la peine justement à soit juste mettre un chiffre ou alors avoir une idée de vraiment ce qui se passe en interne. Tu as eu des expériences comme ça dont tu pourrais nous parler où les gens avaient beaucoup, beaucoup de mal avec cette idée de perception couplée à l'effort?
Ouais, ben, je dis, ben, même au-delà, enfin, déjà dans un test d'effort, t'en as qui, quand tu leur demandes, moi, sur un test d'effort avec des charges incrémentales, ben, sur chaque palier, je leur demande où ils se situent sur une échelle de Borg. J'utilise une échelle de 1 sur 10 sur l'effort perçu, enfin, la difficulté perçue. Et puis, tu as des gens qui, ben, justement, n'arrivent pas à se situer ou disent, voilà, ben, ouais, c'est facile. Et puis, ça continue à être facile jusqu'à ce que finalement, ils arrivent au deuxième seuil. Et puis là, tout d'un coup, non, c'est plus facile. Donc voilà, parce que c'est des gens qui ont toujours eu l'habitude de s'entraîner sur des rythmes plus ou moins semblables. Donc voilà, sur des rythmes ni trop élevés, ni trop lents. Et puis finalement, bah, c'est un effort qui leur semble être facile. Qui parfois, bah, voilà, on a plusieurs spectres entre deux, quoi. Il n'y a pas que ça. Donc peut-être là, dans ce genre d'expérience-là, c'est souvent ce qui arrive dans ces tests d'effort, quand on leur demande où ils se situent. Et puis après, il y a aussi toute cette notion maintenant avec tous ces capteurs de puissance. Ouais, j'ai quand même pas mal de cyclistes qui viennent ou que je suis, qui sont hyper focus sur leur valeur de watts, sur le temps de pourcentage qu'il pourrait y avoir sur un capteur de puissance à l'extérieur, à l'intérieur, et l'importance qu'ils mettent là-dessus, qui, voilà, certes est intéressante, et puis je pense que ça apporte beaucoup, hein, sur l'entraînement, mais qui oublie aussi de s'écouter un peu et puis d'essayer de remettre un petit peu ces valeurs-là dans un contexte voilà, avec des valeurs de, par exemple, de fréquence cardiaque ou de ressenti subjectif.
Quelqu'un qui s'intéresse à tout ça et qui souhaiterait peut-être prêter un petit peu plus attention à ce qu'ils perçoivent à l'entraînement, qu'est-ce que tu donnes re comme recommandation à tes sportifs, aux gens avec qui tu travailles par rapport à ce côté de la perception?
Alors moi c'est vrai que les gens que je suis souvent, ils ont fait une épreuve d'effort avant, donc je les connais aussi un petit peu, mais c'est peut-être de se détacher un petit peu de ces puissances, de toutes ces valeurs-là qu'on a à dispo, et puis d'arriver à peut-être évaluer, enfin de mettre un chiffre subjectif sur chaque valeur, sur chaque séance, puis essayer de se dire voilà, peut-être une fois j'étais à 2, peut-être une fois j'étais à 3, plutôt 5 cette fois-ci. Puis de mettre un mot subjectif sur les efforts-là qu'ils ont à l'entraînement, ou alors justement d'arriver à se détacher de ça et puis plutôt revenir à quelque chose plus proche de valeur de fréquence cardiaque. Et puis quand on commence à connaître un petit peu ces valeurs de fréquence cardiaque, ben, on arrive à les lier à une charge externe, que ce soit en course à pied, à vélo, en natation ou quoi que ce soit. Et puis de se dire, OK, ben cette fois-ci, ben je suis à telle vitesse ou telle puissance, mais ma fréquence cardiaque, elle n'est pas la même. Et donc, du coup, ben voilà, j'essaie plutôt de revenir à une fréquence cardiaque que je connais, qui est ma fréquence de facilité pour arriver à pas se surmener, quoi. Puis voilà, être en tout cas dans une intensité qui est souhaitée, quoi.
Super. Pour tes tests d'effort, est-ce que tu as un protocole que tu utilises, tu as plusieurs protocoles différents que tu utilises? On sait que dans ce monde-là, il y a plein d'options et un protocole, c'est rien de plus qu'un compromis par rapport à ce qu'on essaie de mesurer, le temps qu'on a et la personne avec qui on travaille. Donc, quel est le compromis ou les compromis que tu as décidé de faire de ce côté-là et comment est-ce que tu articules tes différents protocoles?
C'est intéressant, j'y ai beaucoup réfléchi avant de proposer au début un protocole. Voilà, le protocole, il dépend aussi du profil, mais je dirais que pour mes athlètes plutôt typés endurance, et avec le temps que j'ai à dispo, c'est vrai que j'ai une séance quoi, d'1 heure, 1 heure et demie, où j'ai pas forcément le temps de faire plusieurs tests qui mesureraient plusieurs choses. Donc, je fais un test incrémental avec des paliers de 3 minutes. Parce que j'ai aussi pas que la lactatémie, mais aussi la ventilation qui me permet de pouvoir faire un test avec des paliers, je dirais aussi courts, qui peuvent paraître pour certains trop courts. Mais voilà, je fais des paliers de 3 minutes avec des incréments de 30 watts sur vélo et puis de un peu plus que 1 km heure sur course à pied. Et puis voilà, ça me permet d'évaluer les différents seuils ventilatoires et lactiques, d'arriver aussi à corréler les deux valeurs-là que j'ai à dispo pour établir mes seuils. Mais c'est vrai que si j'avais pas la ventilation, les échanges gazeux, je ferais des paliers plus longs que 3 minutes, quoi, de l'ordre de 5 minutes pour être sûr d'avoir des valeurs stables d'un palier à l'autre, quoi.
Donc au final, le protocole, il va durer combien de temps à peu près en moyenne?
Alors ça dépend, mais ouais, sur vélo, ça peut aller presque jusqu'à 30 minutes parfois. Et puis en course à pied, peut-être un peu plus court, une vingtaine de minutes, je dirais.
Comment est-ce que tu t'assures de commencer assez bas en termes d'intensité? Moi, c'est une erreur que j'avais faite au début quand j'avais débuté il y a plusieurs années. Des fois, être un petit peu trop ambitieux avec le palier de départ et on sait que... Il y a beaucoup d'informations intéressantes, qu'on peut trouver tout en bas de l'échelle. Comment est-ce que tu calibres ce point de départ?
Alors bon, déjà, il y a pas mal de discussions que j'ai avec la personne au début. Voilà, je discute avec lui, je regarde un petit peu comment il s'entraîne, peut-être les résultats qu'il a eus auparavant dans sa discipline-là. Et puis si la personne connaît par exemple la vélo, sa valeur, ou a déjà fait un test de FTP par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas, et ben j'essaye de prendre une valeur de l'ordre de voilà, 50% de cet FTP comme charge de départ. Si c'est en course à pied ou si c'est voilà si j'ai pas toutes les informations nécessaires, généralement je commence par un échauffement sur le tapis par exemple de course. C'est moi qui mets la vitesse et puis je commence par leur raconter une petite histoire, leur demander qu'ils me parlent un tout petit peu. Puis je dirais que subjectivement j'arrive aussi un petit peu à voir où est-ce qu'ils en sont dans leur effort. Enfin si c'est déjà trop élevé, si 8 km heure c'est, ben, je vois qu'il y a de la peine à répondre et puis qu'il est déjà pas mal essoufflé. Bah voilà, je vais réduire la charge de départ. Je lui demande aussi où il se situe sur une échelle de perception. Et puis j'ajuste, je dirais plutôt subjectivement, au début pendant l'échauffement. Et puis après, à la fin de l'échauffement, moi, je prends une petite prise de lactate pour voir aussi si la valeur là elle n'est pas trop élevée, si je ne me suis pas plantée ou si l'échauffement était peut-être pas trop, enfin voilà, peut-être trop court, et puis j'ajuste aussi un petit peu en fonction de ça, je dirais. Mais c'est une erreur que j'ai faite aussi au début, par exemple chez des gens qui étaient peu sportifs ou qui n'avaient peut-être pas beaucoup d'endurance de base, où tu te dis, ah, faut absolument les faire partir sur un rythme de trottiner, course lente. Puis en fait, il y a des gens chez qui ben, peut-être il faut simplement marcher au début. Voilà, c'est et vaut mieux partir sur plusieurs paliers trop lents que de louper finalement cette phase d'endurance de base qu'on a envie de déterminer au début, quoi.
Je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio, devenir plus endurant, mieux récupérer, sans nécessairement t'entraîner plus dur, je t'ai préparé une mini formation en 4 vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation.
Ouais, exactement. Parle-nous maintenant du spectre d'intensité, donc on va dire de la basse à la haute intensité, quand les gens ils commencent à, disons, 1 sur 10 et ils vont jusqu'à 10 sur 10. Qu'est-ce que toi, tu vas chercher plus précisément à découvrir au travers de ces différents paliers, des différentes mesures que tu prends? Et après, on pourra aller un peu de manière un peu plus détaillée dans les différentes mesures, les échanges gazeux et la lactatémie, et comment est-ce que tu interprètes tout ça?
Alors, ce que je vais regarder, c'est ben voilà, déjà la cinétique de fréquence cardiaque, si la cinétique elle est plus ou moins stable, s'il n'y a pas des choses un peu aberrantes que, enfin, on ne s'attend pas trop à ce que ce soit pas linéaire, disons. Donc, je mesure régulièrement la fréquence cardiaque, enfin, sur chaque palier. Et puis après, j'essaie de regarder, ben, dans un premier temps, la lactatémie, parce que c'est ça que la ventilation, elle se mesure, je dirais, automatiquement pendant l'effort, mais la lactatémie, je la mesure sur chaque palier. Et puis j'essaie de regarder ben, à quel moment est-ce qu'il y a des changements d'état interne, enfin de début de l'effort jusqu'à la fin de l'effort. À quel moment est-ce que cette cinétique lactique elle évolue de manière, enfin, quand est-ce qu'il y a des ruptures en fait, de linéarité ou de stabilité de cette lactatémie. Et puis à quel moment aussi au niveau de la ventilation, il y a des changements, des adaptations qui se font. Et puis en fonction de ça, après, ben, je détermine des seuils ventilatoire lactique qui me permettent après d'établir mes différentes zones d'intensité individualisées voilà, en fonction du test, quoi. Si je dois être large et ouais.
Qu'est-ce que tu as décidé d'utiliser comme méthode d'interprétation pour tes valeurs de lactatémie? Est-ce que tu es fixé sur une méthode pour le seuil 1, une méthode pour le seuil 2? Est-ce que tu le fais plutôt visuellement?
Bon, dans un premier temps, je dirais que je le fais visuellement. J'essaie de regarder un peu, voilà, si visuellement j'arrive à l'interpréter comme ça. Et puis après, le premier seuil, je regarde, je dirais que je prends la fin du. Enfin, je sais pas s'il faut aller autant dans les détails que ça, mais le
Autant de
premier.
détails que tu veux.
Ok, ça marche. Donc, le premier seuil lactique, c'est le dernier seuil stable de mes valeurs de lactate, je dirais, avant que celle-ci n'augmente. Entre 0,4 et 0,5 mmol. Et puis après, je regarde le deuxième seuil. Donc, j'essaie de regarder quand est-ce qu'il y a une cassure importante. Et puis, je le lisse souvent avec la ventilation aussi. J'essaie de regarder aussi le quotient respiratoire à l'effort, enfin, différents paramètres que j'ai à disposition pour évaluer le deuxième seuil. Et puis, si je ne suis pas sûre, ben, j'utilise la méthode du Dmax modifié. Pour pouvoir être le plus précis possible dans ce deuxième seuil lactique, qui est souvent, enfin, pas souvent hyper évident, je trouve. Il y a plusieurs méthodes à dispo. Je sais pas, toi, quelle méthode tu utilises pour.
J'utilise des max modifiés aussi.
Ouais.
Et en général, je fais faire un test 3 et 12 minutes pour calculer la puissance critique avant qu'ils viennent faire le test.
OK.
Et entre un des max modifiés, une puissance critique, un seuil 2 à l'oxymétrie aussi, et le RPE en général, on a largement ce qu'il
Arrive à
faut
tout,
pour déterminer. Ouais.
à tout corréler ensemble, ouais.
Il semblerait qu'on travaille de manière très similaire avec le lactate. Je prends aussi baseline plus 0,5, mais contrairement à ce qui a été documenté dans la recherche, au lieu de prendre baseline comme étant la valeur au repos, je prends baseline comme étant la valeur minimale active, comme tu l'as dit. Donc si on a un plateau de 2-3 paliers et ensuite ça commence à monter, c'est là qu'on va mettre le premier point. Et pour ceux qui ne savent pas, des max modifiés, en gros, tu tires une ligne entre ce premier point d'inflexion qui monte et le dernier point sur ta courbe de lactate. Et tu prends la tangente, tu prends la ta non pas la tangente, tu prends
La
la
perpendiculaire.
perpendiculaire, là où elle est le plus loin, distance maximale des max de la courbe, et ça te donne ton deuxième seuil avec cette méthode. Très intéressant. Ensuite, Parle-nous des valeurs de ventilation. Alors, tu n'as pas besoin de nous refaire tous les graphiques de manière orale, parce que ça va être un petit peu compliqué. Mais dans les grandes lignes, explique-nous comment ça fonctionne, les mesures de seuil ventilatoire avec ces différentes notions d'échange ventilatoire ou de volume d'air respiré, la consommation d'oxygène, la production de CO2. Donc, fais-nous un petit topo sur ces seuils ventilatoires de manière globale et comment ça fonctionne.
Alors, bon, donc sur un effort incrémental comme ça, on va avoir une augmentation progressive de la consommation d'oxygène, parce que ben, plus le muscle est sollicité, plus l'intensité est importante, plus on doit l'alimenter en oxygène, et donc notre consommation d'oxygène augmente de manière linéaire, quoi, jusqu'à ce qu'on atteigne nos capacités, si l'effort est réalisé jusqu'à épuisement ou intensité max. On va avoir un espèce de plateau de cette consommation d'oxygène qui nous indique qu'on a atteint finalement cette taille de moteur à disposition de nos poumons qui nous permettent de nous produire un maximum d'oxygène. On peut pas plus, enfin, on a beau augmenter l'intensité, finalement cette consommation-là, elle atteint ses limites. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour ça. Après, au niveau de la ventilation aussi, bah voilà, elle va augmenter aussi. Finalement, on est obligé de ventiler de l'air pour apporter de l'oxygène. Enfin, tout est un petit peu lié. Mais je dirais qu'en début d'effort, on a une ventilation qui est plus ou moins voilà, linéaire. Okay? Et puis, la VO2 aussi. Le premier seuil, il est souvent, comme on le remarque souvent, par une première augmentation de cette ventilation, qui est due à une première accumulation du CO2 qui est un peu plus importante, parce que voilà, on commence aussi à de plus en plus utiliser des sucres, donc on a aussi une première consommation de CO2, enfin des ions H+ qui commencent à être aussi, enfin je sais pas si je dois aller autant dans les détails, mais voilà, qui commencent à apparaître aussi, puis donc du coup, on a cette ventilation qui réagit à ce premier changement-là, et donc voilà, c'est aussi un premier état, changement d'état qu'on pourrait observer. Et puis le deuxième seuil ventilatoire, eh ben, on le voit par tout d'un coup une hyperventilation, donc une ventilation qui augmente de manière très importante, beaucoup plus importante que la première fois. Et puis là, cette fois-ci, je dirais que voilà, que le CO2, il est plus vraiment stable, on n'arrive plus à le stabiliser, et lui aussi, il commence à grimper. Et puis voilà, c'est ce changement d'état, ce déséquilibre métabolique qui fait que on passe dans un état métabolique différent, quoi.
Donc, tu as tes deux seuils lactiques, tu vas chercher à faire correspondre ça avec tes seuils ventilatoires pour avoir la meilleure interprétation possible. Quelle relation tu vois entre ces seuils ventilatoires et ces seuils lactiques? Est-ce que, en général, ils sont très proches l'un de l'autre? Est-ce que le seuil 1 est en général plus proche ventilatoire lactique que le seuil 2? Parle-nous un petit peu de tes constats que tu as pu faire au travers de tous les tests que tu as effectués.
Je dirais que j'ai quand même plutôt tendance à avoir des seuils lactiques qui apparaissent plus tôt et un deuxième, par exemple, le deuxième seuil ventilatoire qui est très pas très tardif, mais je dirais que il aurait plutôt tendance à surévaluer un peu ce seuil finalement, tandis que le seuil lactique tendrait à être un peu plus prudent, si j'ose dire. Donc c'est peut-être un petit peu ce constat-là que je fais. Et puis, mais c'est surtout par rapport au deuxième seuil. Ben voilà, typiquement avec les échanges gazeux, on a ce quotient respiratoire qui nous permet aussi de, si toutes les valeurs fonctionnent bien et que tout est propre et joli, on a un quotient respiratoire à 1, théoriquement, quand on arrive sur cette rupture de pente, avec un deuxième seuil ventilateur plus ou moins par là. Plus souvent, ce quotient respiratoire à 1, je trouve, est très proche finalement de la fin du test. Et puis, ouais, c'est souvent ça que peut-être que j'observe. Je sais pas si toi, tu utilises aussi,
Alors, je n'ai pas le CO2
t'as
actuellement,
pas le
donc
CO2, ouais, c'est
c'est
juste.
une des raisons pour lesquelles je te demande, c'est que je suis
Ouais.
curieux de savoir comment ça interagit entre ces deux-là. Avec les outils que j'utilise, je vois une belle correspondance quand même entre ce qui se passe au niveau lactate et ce qui se passe au niveau oxymétrie. Donc là, il y a une bonne correspondance au niveau des points d'inflexion. Au niveau ventilatoire, souvent, on voit tout ce que je peux voir, c'est l'hyperventilation, on va dire. Donc le fait qu'on ait un départ de cette. seconde linéarité de la consommation, juste de l'apport d'air, on va dire, du volume d'air qui est ventilé. Donc c'est pour ça que j'étais curieux de savoir avec tes données de CO2 supplémentaires ce que tu arrives à voir. Au niveau du premier seuil, donc tu dirais que c'est assez correspondant, c'est assez concordant entre les valeurs
Ouais,
lactiques et
je
les
trouve.
valeurs ventilatoires.
Ouais, je trouve que ça se corrèle assez bien avec mes valeurs, généralement, ouais.
Tu as eu des cas limites qui étaient complètement hors de la norme et qui ont fait que tu te grattes la tête un petit peu pendant quelques minutes, hors souci d'équipement et de mesures, disons.
Mais dans quel sens tu dis des valeurs max ou au niveau du lactate
Que ce
ou...
soit des valeurs de lactatémie qui étaient complètement en dehors des normes que tu as l'habitude de voir, des valeurs ventilatoires aussi qui sont complètement en dehors des normes, quelque chose qui sort de la norme et que tu n'as pas l'habitude de voir.
Comme ça, non, j'ai pas d'exemple récent qui me viennent en tête. Je dirais que j'ai eu des cas où la lactatémie était très élevée dès le début,
Quand tu dis
malgré des
très élevé,
paliers.
tu veux dire...
Je dirais que sur les premiers paliers, j'ai une lactatémie qui est proche des 2, par exemple, millimoles. Et ça, depuis les premiers paliers, malgré un échauffement long et lent. Voilà, c'est plutôt peut-être par rapport à ça où j'ai eu des cas peut-être peu compréhensibles. Alors, peu compréhensibles, je sais pas, c'est souvent des gens aussi qui ont moins d'endurance de base et puis qui sont pas capables ou peu capables d'utiliser leur filière oxydative. Mais j'ai eu récemment, par exemple, une athlète qui a un background assez important d'endurance et puis qui avait des valeurs de lactate hyper élevées. Alors, elle a des soucis d'alimentation, enfin de nutrition, enfin voilà, des intolérances connues qui pourraient avoir un lien avec ces valeurs-là, mais sur lesquelles je n'ai pas réussi vraiment à avoir d'explications plus précises et profondes par rapport à ça.
Ok,
Donc.
super intéressant. C'est vrai que les valeurs de lactate qui sont hautes dès le départ, j'en ai vu aussi. Et le plus surprenant que j'ai vu, c'était des valeurs qui commencent hautes et qui montent très, très, très vite et très, très hautes aussi à des intensités qui sont plutôt basses. Avec on va dire, une droite quasiment qui monte de manière linéaire avec le lactate.
Pareil,
Ouais, c'est des fois on sait pas, des fois c'est pas toujours facile de comprendre pourquoi ces choses-là surviennent selon le type de personnes que tu as avec toi, comme tu l'as dit, hein, selon le profil athlétique, des gens bien entraînés, des gens moins entraînés, des gens qui ont des soucis, que ce soit hormonaux, alimentaires, d'entraînement, psychologiques aussi, qui peuvent jouer, hein, dans cette charge globale, etc. En tout cas, c'est très très intéressant.
après.
Vas-y,
Ouais,
vas-y.
non. Je dis les gens aussi qu'il faut essayer de remettre un petit peu. Enfin, moi, je travaille pas avec des sportifs élites d'élite tous les jours. Les gens qui viennent passer les tests, c'est des gens comme nous qui ont un job, qui ont du stress externe, etc. Et souvent, voilà, quand les gens arrivent pour faire un test d'effort, il y a eu peut-être une journée de travail avant ou du stress et de la fatigue. Et puis, je pense que c'est pas négligeable. Alors, malgré le fait que moi, j'essaie de standardiser quand même les conditions d'avant-test. En évitant de boire du sucre et de manger une demi-heure avant. Mais voilà, malgré ça, voilà, ces valeurs-là, elles sont peut-être aussi dues à de la fatigue chronique ou aiguë, et puis qu'il faut aussi prendre en compte. Voilà.
Toi, quelles sont les informations les plus importantes que tu retires d'un test d'effort et de l'analyse qui en suit?
Alors, bon, déjà, je regarde que tous les paramètres cardio-respiratoires fonctionnent correctement, qu'il n'y ait pas forcément d'anomalie ou de restriction, peut-être, obstruction qu'on pourrait avoir pendant l'effort ou avant. Et puis, après, je pense que le plus important, c'est quand même de pouvoir mesurer ce premier seuil, surtout sur un profil comme ça, où je propose des paliers relativement longs qui ne sont pas forcément adaptés à un test de VO2 max ou voilà. Donc c'est plutôt de pouvoir leur donner ce premier seuil et puis bah le deuxième seuil aussi, hein, est aussi important, mais en fonction de ces deux seuils-là, même si voilà, en fonction de ça, j'arrive à leur donner des zones d'entraînement qui leur permettent de s'entraîner de manière convenable et juste en fonction de l'objectif qu'ils ont et puis de la spécificité de la séance. Ouais.
Donc là, on a parlé un petit peu donc de comment tu procèdes sur ces tests d'effort, sur les informations que tu en retires. Si tu devais expliquer à quelqu'un pourquoi il devrait faire un test d'effort. Ou peut-être si on la tourne dans l'autre sens, pour qui c'est intéressant d'effectuer un test d'effort?
Je pense que c'est important et intéressant de le faire pour tout le monde. Je pense que d'autant plus pour les sportifs amateurs, parce que ben voilà, les sportifs amateurs ou qui débutent ou qui ont peut-être pas forcément énormément d'expérience ont besoin aussi de se connaître davantage, de connaître son corps, de connaître son fonctionnement, et puis de débuter la pratique sportive dans les meilleures des conditions. Et puis aussi, s'il y a un objectif sportif particulier derrière, ben c'est de pouvoir leur donner des zones d'entraînement, de travail spécifiques qui leur sont propres et puis qui leur permettraient de s'entraîner dans les meilleures conditions, le plus juste possible. Et puis voilà, en essayant d'optimiser en fait après, par la suite, l'entraînement pour progresser le plus rapidement possible ou le mieux possible. Et puis après, pour les sportifs élites ou qui ont un peu plus voilà, d'expérience sportive derrière, ben voilà, un test d'effort, ça permet aussi de mettre des chiffres objectifs à un moment donné dans la saison, de pouvoir se situer, de pouvoir comparer ces valeurs-là. Si après on a plus ou moins de matériel à dispo pour l'entraînement, ben c'est de pouvoir retester ce qu'on a testé. On a un test d'effort sur le terrain aussi, de voir dans quelle mesure est-ce que ces mesures-là le corrèlent, si on est dans le juste, et puis si on progresse, s'il y a de la fatigue, d'éviter le surmenage et le surentraînement. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de choses à retirer d'un test d'effort.
Oui, absolument. Je suis très d'accord avec toi même sur les gens qui sont pas professionnels, qui ont un job à côté. C'est d'autant plus important de bien gérer les quelques heures d'entraînement que tu vas dédier dans la semaine. Tu as peut-être, voilà, tu as rarement des heures illimitées pour t'entraîner. Donc, tu veux t'assurer que tes 4 heures, tes 6 heures, tes 10 heures dans la semaine soient bien utilisées et que tu ailles dans la bonne direction plutôt que de le faire à la bonne franquette.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Super. Une fois que tu as ce profil, tu as les seuils, tu as les zones, comment est-ce que tu procèdes dans ta réflexion lorsque tu construis un plan d'entraînement? Quelles sont les questions que tu te poses? Quelles sont les questions que tu poses à l'athlète pour commencer à établir cette structure d'entraînement?
Bah déjà, je vais regarder les disponibilités que la personne a, enfin le nombre de séances à dispo qu'on peut mettre dans une semaine. Et puis après, en fonction de ça, bah voilà, les moyens d'entraînement qu'il a aussi à dispo, s'il a la possibilité de s'entraîner dehors qu'uniquement à l'intérieur, avec quel type d'ergomètre ou etc., pour pouvoir voir dans quelle mesure est-ce que je peux aussi varier le type de séance dans une même intensité. Et puis après, en fonction du nombre de séances à dispo, ben de voir un peu quel pourcentage est-ce que je mets dans chaque intensité pour que ce soit le plus juste, le plus optimal possible. C'est-à-dire que si quelqu'un a peu de séances à dispo, ben voilà, c'est peut-être pas de lui mettre 3 fois de l'endurance. Alors peut-être que c'est peut-être ça qu'il faut faire au début, mais voilà, c'est peut-être de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire ça. Et puis s'il y a beaucoup, beaucoup d'heures et de dispo, et ben c'est d'essayer d'éviter la monotonie, d'essayer d'être, voilà, de développer le plus de facettes possibles, quoi, chez l'athlète.
Est-ce que tu as un sport ou des sports avec lesquels tu préfères travailler si tu devais choisir?
Je dirais que je suis moins à l'aise dans le triathlon parce que la natation, c'est pas du tout mon truc. J'ai peu de connaissances là-dedans. J'aime bien travailler avec les cyclistes parce que c'est des sportifs avec qui, finalement, c'est, je dirais, pas plus facile, mais c'est des valeurs qui sont moins changeantes en fonction de, voilà, soit ils ont un entraîneur ou l'été ils peuvent aller à l'extérieur, mais c'est tout le temps sur le même engin avec le même capteur de puissance, la même fréquence, enfin voilà, les mêmes outils de monitoring. Et puis donc c'est peut-être aussi plus facile de voir une progression, d'évaluer aussi un peu les progressions d'une fois à l'autre. Et puis après, ben peut-être la richesse de la course à pied, c'est qu'il y a pas mal de paramètres externes aussi qui rentrent en jeu. Il y a peut-être plus d'aspects à prendre en compte, peut-être, dont l'économie de course, dont plein de choses. Et puis après, en fonction de l'objectif que les gens ont, c'est aussi assez intéressant de travailler différemment, en fonction aussi, voilà, si c'est un marathon, si c'est un 10 kills. Enfin voilà, c'est aussi la richesse du truc, quoi.
Ouais, c'est super intéressant. Tu as pas mal d'expérience avec tout ce qui est protocole d'altitude, notamment avec ton travail à Motion Lab. Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout ce milieu, quel est l'intérêt d'un entraînement en altitude et pour qui ça peut être intéressant?
Alors, peut-être, bon, voilà, l'altitude, c'est s'entraîner avec une réduction de l'oxygène disponible au niveau du sang, des artères, etc. Ça peut être en réelle altitude, donc en montant au niveau du glacier à 3000 mètres d'altitude, par exemple, ou justement dans ces chambres dans lesquelles j'ai eu la chance de travailler, qui simulent de l'altitude. Donc, la pression, elle ne change pas, mais on va extraire un pourcentage d'oxygène dans la chambre. Et puis, ce stress-là environnemental, il va avoir un effet aigu sur nos paramètres physiologiques. Notamment, on va avoir tout d'un coup une ventilation plus importante, une fréquence cardiaque plus importante pour pallier justement à cette diminution d'oxygène disponible au niveau du muscle finalement. Et puis, donc, du coup, ce type d'entraînement, il est bénéfique pour des gens qui ou veulent s'acclimater pour une ascension en haute altitude, parce qu'ils se retrouvent dans ces conditions-là, ou pour des sportifs d'endurance qui veulent améliorer leur capacité d'endurance, ou pour moi on avait beaucoup d'athlètes de sportifs collectifs, où on a beaucoup d'efforts répétés à très haute intensité, avec des productions lactiques importantes, etc. Et puis le fait de les mettre dans cet environnement-là où on a une production lactique qui est plus vite présente, eh ben, on peut jouer aussi sur cette capacité de tolérance, de clairance du lactate sur des intensités très spécifiques. J'ai pas été très structurée dans cette réponse, mais
C'était très bien, tu nous as fait
voilà.
une belle vue d'ensemble de tout ce qui se passe. À ta connaissance, est-ce qu'il y a une différence entre un environnement, je crois qu'on dit normobarique, c'est ça, donc avec une pression normale et hypoxique, donc avec cet oxygène qui est sorti de l'air, versus un environnement en altitude, entre guillemets, réel. Est-ce qu'il y a des différences à ce niveau-là?
Alors, donc, j'ai pas plus de réponses que ce qui a été dit, tout ce que j'ai eu entendu dans la littérature, mais je dirais que l'entraînement hypobarique aurait des effets majorés par rapport à un entraînement normobarique, avec donc de l'altitude réelle. Et puis, donc voilà, donc après, donc c'est pour ça que dans ces chambres-là, normobariques, on joue sur des intensités assez importantes pour peut-être aussi pallier à ces différences-là qu'on pourrait retrouver en réelle altitude. Après, dans l'entraînement qu'on y fait en hypo et en normobar, c'est aussi différent. Souvent, les gens qui partent en haute altitude réelle, c'est pour y rester sur des séjours prolongés. Et donc aussi, les objectifs sont pas les mêmes qu'en normobar, où on est souvent sur des entraînements à court terme, des expositions, pardon, à plus court terme. Et donc, du coup, l'objectif de la séance et les objectifs physiologiques recherchés ne sont pas non plus les mêmes, quoi.
Oui, très intéressant. Est-ce qu'il y a un type d'entraînement ou des types d'entraînement qui sont les plus intéressants à faire dans un environnement hypoxique comme tu pourrais l'avoir dans cette chambre qui simule l'altitude?
Alors, généralement, ce qu'on préconise, c'est soit de faire de la basse intensité, vraiment de rester dans cette zone d'endurance de base, zone 2, 1-2. Parce que voilà, ça permet aussi de stimuler la filière oxydative et puis d'essayer, parce que quand on est en hypoxie, on va avoir dans un premier temps une vasoconstriction des vaisseaux, enfin de réseaux périphériques, une hyperventilation, etc. Et puis donc du coup d'essayer de faire de la basse intensité au fur et à mesure des séances, on aurait en fait des adaptations au niveau vasculaire, avec une meilleure compliance de ces vaisseaux-là, parce qu'ils doivent justement apporter plus de sang pour apporter plus d'oxygène au niveau du muscle. Donc ça permettrait d'avoir une meilleure vasodilatation, un meilleur réseau capillaire, plus de mitochondries, plus de vascularisation, etc., au niveau du muscle, en faisant des séances à basse intensité. Et puis on s'est aussi rendu compte que pour des patients, des gens en surpoids, sédentaires, de faire de la basse intensité, ça avait aussi un avantage là pour ces gens qui aurait peut-être aussi plus de risques d'hypertension ou de diabète, etc., quoi. Parce qu'on stimule certaines hormones qui aussi diminueraient l'appétit, stimuleraient aussi le métabolisme. Et donc, il y a un intérêt vraiment réel et de plus en plus important de faire de l'hypoxie à basse intensité. Puis après, soit ça, soit des séances de type haute intensité, donc au-dessus de ce deuxième seuil, ou même dans des efforts all-out, si je pourrais dire. Après, c'est encore en fonction de l'expérience qu'ont les gens dans ces chambres-là. C'est clair que sur un premier entraînement, on ne va pas les faire partir sur des sprints all-out parce que ben voilà, y a une diminution de cet oxygène, puis des répercussions assez importantes sur le métabolisme et puis la tolérance à l'altitude. Mais souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est proposer des efforts très intenses où on va forcer le muscle à désaturer à max en fait en oxygène pour que derrière il y ait des adaptations d'autant plus importantes au niveau du muscle pour essayer de combler ou de compenser ces désaturations importantes musculaires.
Ouais, c'est intéressant, c'est ce qu'on avait vu ensemble quand j'étais venu à Motion Lab. Donc encore une fois, pour ceux qui sont intéressés, allez creuser sur la chaîne YouTube, vous trouverez la vidéo en question. Et on avait fait des sprints. Alors, si je ne me trompe pas, j'avais des données de sprints que j'avais effectuées dans un environnement normoxique, normal. Et on avait fait ensuite les mêmes efforts dans un environnement hypoxique pour voir ce qui se passait au niveau de la saturation
Ouais, à fond.
musculaire en oxygène, c'était très très intéressant. Donc on a cette, on va travailler, on va dire, aux deux pôles, soit basse intensité, soit très haute intensité. Par rapport à des adaptations qu'on retrouverait en chaleur, et pour ceux qui sont intéressés par l'entraînement en chaleur, on a fait un podcast complet avec Rémi. Alors on n'a pas parlé que ça, mais on a beaucoup parlé de chaleur, donc allez checker le podcast récent avec Rémi pour tout ce qui est adaptation à la chaleur. À ta connaissance, les adaptations chaleur et altitude, est-ce qu'il y en a une qui dure plus longtemps que l'autre en termes de rétention dans le temps si on est plus exposé à ce stimulus?
Je ne voudrais pas dire de bêtises par rapport à ça. Moi, j'ai moins travaillé avec la chaleur. On avait quand même moins de clientèle par rapport à ça. On l'utilisait plutôt pour de l'acclimatation dans des conditions vraiment de chaleur et d'humidité qui avaient lieu sur des compétitions, par exemple, en humidité et en chaleur. Donc, c'était sur des protocoles d'endurance et puis après d'efforts un peu spécifiques à la compète pour essayer de, voilà, d'arriver à transpirer plus vite, plus, d'avoir une meilleure rétention des électrolytes, etc. C'était plutôt dans ce sens-là. Mais après, je sais que, enfin voilà, c'est hyper intéressant de le faire d'un point de vue de la récupération, que ça peut être après une compétition, après voilà, quelque chose pour essayer d'éliminer les métabolites qui restent dans le réseau sanguin notamment, de faire de la récupération dans le chaud, ça a un intérêt. Et puis de s'entraîner en chaud, ça aurait aussi un intérêt sur les capacités aérobie. Parce que ben justement, on va augmenter ce réseau capillaire au fur et à mesure des séances pour essayer ben, de majorer justement la thermorégulation. Et puis donc de faire des entraînements en chaud, ça majore vraiment les capacités d'endurance. Après, dans le temps, je ne saurais pas dire franchement. Quel est le plus avantageux?
Si tu as, si certainement t'as beaucoup plus de références que moi en termes d'altitude, sur le chaud, de ce que je comprends, ça se réduit assez vite.
OK.
2 jours, 3 jours, tu perds déjà un gros pourcentage des adaptations que tu aurais générées en faisant des séances bien structurées et avec une bonne densité d'entraînement. Donc, parle-nous directement, pour faire simple, de l'altitude. Combien de temps ça dure si tu fais un protocole adapté? Combien de temps tu peux espérer garder, retenir ces adaptations?
Ouais. Alors nous, enfin, les entraînements déjà, il faut en faire un certain nombre. Hein. Enfin, c'est pas en deux trois séances qu'on va avoir des retours intéressants. Mais généralement, on propose de faire des séances assez régulières pour qu'il y ait un impact physiologique notable. Et puis sur, voilà, je dirais minimum 6 séances et plus si possible quoi, en altitude. Et puis après, souvent, on essaie de fixer ces séances-là à 2 3 semaines d'un événement, par exemple, parce qu'on dit que voilà, au-delà de 3 4 semaines, les effets auraient tendance à diminuer quoi. Pour de l'entraînement d'altitude sous forme intermittente, encore une fois.
Ouais, c'est intéressant, ça correspond assez bien à ce qui se fait en chaleur, d'après ce que je comprends, où on peut faire un protocole où si on le fait tous les jours actif, c'est 10 jours. Et après, si on le fait un jour sur deux, où tu as un jour actif, un jour passif, avec par exemple un bain chaud, tu arrives à étirer ça sur 2, 3 semaines. Mais il semblerait que ça soit la fenêtre d'opportunité, on va dire, pour ce type d'entraînement. Qu'est-ce que tu as vu comme effets et adaptations les plus intéressants sur tout ce genre d'approche alors qui sont pas donnés à tout le monde hein, d'un point de vue matériel et logistique. Qu'est-ce que tu as vu comme changement, comme progrès, comme adaptation intéressante dans toute ta pratique?
Bon, si on parle de l'hypoxie, on a pas mal travaillé avec des sport co, avec des hockeyeurs, surtout des hockeyeurs, et puis après des sportifs comme des triathlètes, etc. Et puis, on avait des protocoles qu'on appelle des sprints répétés en hypoxie. Donc, ça consiste à faire des sprints lors de 6 à 10 secondes avec des pauses incomplètes, donc de moins de 30 secondes. Et puis de répéter ça sur plusieurs, c'est assez cool, sur plusieurs répétitions et sur plusieurs séries. Et puis c'est assez intéressant. Alors ouais, c'est assez intéressant de voir en fait la progression en termes de. Donc le but c'est d'arriver à répéter ces sprints-là qu'on effectue sur un vélo notamment. On va mesurer chaque fois la puissance record qui a été effectuée sur chaque sprint. Et puis sur une première séance, généralement, on a une déplétion, une diminution de la performance, donc de la puissance réalisée sur les sprints qui est assez importante, ce qui est normal, hein. Et après, au fil des séances, on arrive à avoir une stabilité, pas une stabilité, mais une diminution de cette perte de performance qui est de moins en moins importante. Alors, bah, je n'arrive pas à exprimer, c'est dû au fait que souvent ces sportifs-là n'ont pas forcément l'habitude de faire ce genre de séance spécifique-là. C'est la spécificité de la séance qui fait aussi que on s'améliore rapidement. Mais le fait de le faire dans ces environnements-là, les adaptations, elles sont assez impressionnantes et j'ai rarement vu des gens qui ne s'amélioraient pas, donc déjà. Et puis, on a une amélioration de cette puissance-là qui est assez importante, avec une capacité au fait à répéter des sprints en ayant une aisance ventilatoire qui est de plus en plus impressionnante. Donc voilà, c'est des sportifs chez lesquels on retrouve après voilà, des résultats assez intéressants sur le terrain, où ils se sentent déjà mieux au niveau perceptif, et puis ils sont capables de répéter ces efforts intenses de manière plus aisée, je dirais. Donc, après, voilà, j'ai aussi travaillé avec des triathlètes, puis je m'amusais aussi à regarder le lactate qu'il pouvait y avoir à la fin de ces séances-là. Avec des lactates qui forcément montent très haut. Et puis après, on se rend compte que sur la récupération, il y a une capacité de récupération qui est de plus en plus importante. Donc voilà, une capacité de clairance du lactate qui est majorée, quoi, sur des séances comme ça.
Super intéressant. D'ailleurs, ce serait cool de pouvoir refaire des petits projets comme ça à
Ouais.
l'avenir. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe sur le terrain et de le documenter. En tout cas, c'était chouette de pouvoir faire ça avec toi et toute l'équipe à Motion Lab. Parle-nous un petit peu de tes activités de formatrice en termes de moniteur de ski de fond. Comment est-ce que tu es tombé dans le ski de fond au départ et qu'est-ce que tu aimes dans cette discipline?
Ouais, bon, à la base, mes parents étaient profs de ski alpin, de ski. Et moi, je voulais faire de la compétition. Et puis, le ski, c'est vrai que j'ai un papa physio qui avait un peu peur des ruptures des croisés, etc. Qui m'a plutôt orientée vers un sport, je dirais, hivernal, un peu moins à risque. Du coup, je me suis retrouvée dans le ski de fond parce qu'on a un club de ski de fond, ski club de B, qui est pas très loin de là où je vis. Et du coup, je suis tombée là, dans le ski de fond un peu par hasard. Voilà. Et puis voilà, j'ai vite été plongée là-dedans, dans ce sport. J'ai fait de la compétition jusqu'à ce que je commence l'université. Et puis après, quand j'ai commencé mes études, j'avais moins le temps de m'entraîner. Et puis donc, du coup, j'ai commencé à entraîner aussi les jeunes de la sélection régionale. Et puis après, je me suis formée pour pouvoir en fait former les futurs moniteurs et entraîneurs de ski de fond. Et aujourd'hui, je donne des formations tout l'hiver pour des moniteurs de ski. Et puis voilà, c'est une autre approche que j'aime beaucoup. Et à côté, maintenant, avec mon activité indépendante, je propose aussi des cours de ski de fond pour des gens qui veulent simplement progresser dans leur technique et puis avoir du plaisir, quoi.
Parle-nous de cette part technique du ski de fond. C'est une discipline que je connais très très mal. Donc fais-nous un petit peu la vue d'ensemble sur les contraintes techniques qui existent et la différence que la technique peut faire sur un sport comme ça.
Ouais. Alors, il y a déjà en ski de fond, il y a deux styles. Il y a un style classique, donc on avance dans les rails qu'on peut voir là sur les pistes de ski de fond. Donc, c'est un sport qui s'apparente pas mal à la peau de phoque ou à la marche, course, enfin voilà. Et puis après, il y a le skating qui est c'est les mêmes sortes de ski, simplement c'est à l'extérieur de ces rails-là, où c'est un espèce de patineur qui ressemble un peu plus à du roller ou du patin. Et simplement, on a des bâtons qui nous permettent aussi d'avancer, de compléter le mouvement. Et puis, il y a un aspect de glisse, d'endurance qui est important. Et puis, de technique, il faut arriver à être stable sur son ski pour glisser longtemps. Puis, il faut arriver à avoir un impact efficace sur la neige au moment de transférer son poids du corps d'un ski sur l'autre voilà, pour arriver à générer de la puissance puis à se déplacer de manière efficace. Et je dirais que plus on a de la technique, plus on arrive à glisser longtemps, plus on est économique, enfin et plus on a de plaisir. C'est un peu comme, ben, je nage pas beaucoup, mais c'est, j'imagine, comme la natation, où plus on arrive à glisser dans l'eau, plus on glisse et plus c'est cool, quoi.
Ouais, exactement.
Mais je dirais que la richesse de ce sport, c'est que on travaille quand même beaucoup de chaînes musculaires différentes en même temps. Et c'est un sport d'extérieur où on voit du paysage et on a quand même cette sensation de glisse. Donc c'est moins frustrant ou moins difficile que de la course à pied pour ceux qui ont moins de plaisir à aller courir, par exemple.
Ouais, c'est tu couvres un petit peu plus de terrain, un petit peu comme avec le vélo, donc tu vois un petit peu plus de paysage, comme tu l'as dit. Beaucoup de masse musculaire impliquée. Je pense que c'est un des sports où il y a le plus de masse musculaire impliquée. Hein.
Ouais,
Ce qui
ouais.
fait que les VO2, les VO2 max, consommation maximale d'oxygène qu'on voit chez ces sportifs-là à haut niveau, c'est des valeurs des plus hautes qu'on voit chez l'humain.
Ouais, vraiment.
Petit clin d'œil à Nico Vandel, avec qui on a échangé juste cet après-midi et qui lui aussi est dans le ski de fond. Il me parlait quand j'étais monté quand j'étais monté au centre dans le Jura, de l'importance du matériel, des skis pour ce qui est de la glisse. Parlons un petit peu de ce côté-là, du côté matériel.
Oui, c'est clair. Après, ben, typiquement, non, le ski de fond, le classique dans les rails à l'époque ou encore maintenant, mais il y avait des skis à écailles. Donc, c'est une structure sous le ski qui nous permet de crocher puis d'avancer, hein, si on référence ça un petit peu à la peau de phoque. Et aujourd'hui, ben, voilà, on est passé par du fart de croche qui dépend aussi énormément de la neige, des conditions, etc. Donc, il faut encore connaître ces subtilités-là d'un point de vue pour la croche, pour le classique. Puis après, il y a aussi tous les farts de glisse. Qui sont très dépendants de la chaleur, de l'humidité, de la composition de la neige, etc. Et puis donc toutes ces connaissances-là font que si on a un ski bien farté et adapté à la neige, ça fait une grande différence aussi. Puis hein, souvent les gens qui font du ski de fond un peu pour le plaisir oublient de farter leur ski régulièrement, c'est aussi de l'entretien. Et puis si on les farte pas régulièrement, on les imprègne pas régulièrement, bah, ils glissent moins bien. Puis ça part aussi de là, le plaisir de glisser. Si on a un ski qui est bien préparé et bien farté, on a un petit plus de plaisir, quoi.
Prenez soin de votre matériel et il prendra
Voilà.
soin de vous sur la neige, c'est ça.
C'est ça.
Quand tu donnes tes cours pour former les instructeurs, qu'est-ce qui ressort le plus de ton côté en tant qu'instructrice, formatrice? Qu'est-ce que tu dois mettre en avant? Qu'est-ce qui manque chez la plupart des gens qui aspirent à devenir formateur ou qui le sont déjà et qui mettent les choses à jour? Qu'est-ce qui manque le plus dans ce domaine de formation ou d'entraînement, ce qu'ils te font?
Je dirais que c'est peut-être d'arriver à apporter un aspect ludique à la pratique. C'est comme tout, enfin, c'est un sport d'endurance, mais c'est souvent un peu la vieille école où, voilà, si tu veux progresser, il faut skier, il faut toujours à la même vitesse. Enfin, voilà, c'est quelque chose un petit peu de monotone et à la méthode russe comme ça. Et puis, ben, nous, ce qu'on a essayé d'apporter, c'est voilà, d'arriver à montrer toutes les variétés possibles sur les skis. Et puis qui permettent de rendre ce sport ludique, notamment, ben voilà, tout ce qu'on peut faire en salle de gym, en sport, à l'école par exemple, tous les jeux de balle, les estafettes, enfin, les relais possibles, etc., qui sont possibles en salle de gym, sont faisables sur les skis. Puis donc tout ça, c'est faisable de le faire aussi avec des jeunes. Si on veut travailler de la vitesse, ben, c'est aussi possible de le faire, pas seulement en faisant de la vitesse pure, mais en travaillant sur des choses un peu plus, voilà, avec un espèce de team building par équipe. Si on veut faire des intervalles, de l'endurance, enfin des intervalles training en ski, c'est aussi faisable de le faire, voilà, avec un aspect jeu derrière, si c'est chez les jeunes. Et puis voilà, pas oublier aussi ça, je dirais. Ouais, c'est peut-être ça qu'on essaye de mettre le plus en avant chez les futurs moniteurs de club.
Donc ça, on est sur l'aspect coaching. Si on pense maintenant pour les personnes qui travaillent plus dans peut-être le sport de performance de ce côté-là, en termes de planification, est-ce que tu vois des approches ou des choses qui demandent à être mises à jour ou des types d'entraînement qu'on fait trop, d'autres qu'on fait pas assez. Comment est-ce que tu vois la chose de manière globale?
Ouais, j'entraîne, enfin, je forme moins des entraîneurs sur l'entraînement pur. C'est plus sur ouais, des entraînements de club chez les plus jeunes. Donc, j'ai moins ce retour comme ça de pratique des entraîneurs. Mais je dirais que, bah, voilà, encore une fois, d'arriver à comprendre un petit peu les spectres d'intensité qui existent, peut-être un petit peu négligé chez certains. Et d'arriver à en être conscient. Et puis y a pas forcément obligatoirement, on n'a pas forcément passé par un test d'effort pour connaître ces zones d'entraînement, puis arriver après à spécifier l'entraînement, mais simplement de savoir que ça existe et puis que, voilà, de varier les intensités d'entraînement permettent aussi de faire progresser à long terme. Ouais, je dirais peut-être plus par rapport à ça. Puis après, c'est, voilà, aussi, c'est typiquement d'arriver à dissocier ce que c'est que de la vitesse pure, le temps de récupération qu'il faut avoir pour faire de la vitesse, que c'est pas la même chose que si tu fais, ben voilà, des choses avec des efforts rapides répétés, c'est plus du tout de la vitesse pure. Peut-être des petites subtilités là où on doit peut-être un petit peu mettre le doigt dessus. Mais on n'est pas dans les dans la dans la on ne va pas aussi loin que chez des entraîneurs élites et nationaux, quoi. En tout cas, c'est pas dans mon activité là.
Pour conclure, je veux parler un petit peu de donc, ton activité de test d'effort, test and perf, nom de ton entreprise. Qu'est-ce que tu espères voir avec test and perf dans les 3 ans à venir?
Alors, j'espère pouvoir avoir de plus en plus de monde d'horizons différents qui viennent me trouver pour faire un premier test d'effort ou pour refaire un test. Plusieurs fois par année pour essayer de voir un petit peu où ils en sont, de pouvoir apporter, voilà, de pouvoir apporter des connaissances et un apport par rapport à l'entraînement à le plus possible de sportifs. J'aimerais bien avoir aussi des sportifs d'élite, c'est pas, voilà, d'avoir des amateurs et des sportifs d'élite, de pouvoir faire aussi du coaching, c'est des choses que j'ai peu développées jusqu'à présent. Donc, de pouvoir aussi voir ces gens-là en présentiel, parce que pour l'instant, c'est pas forcément le temps que j'ai qui me permet de le faire, mais d'avoir voilà, de voir ces gens régulièrement aussi et puis pouvoir leur apporter aussi pour leur faire découvrir le ski de fond si c'est pas le cas mais voilà, pouvoir travailler sur les choses qui me font plaisir, donc la physiologie, le ski de fond, l'entraînement chez un large public de sportifs, quoi, amateurs et passionnés.
C'est super, c'est déjà pas mal et en tout cas, je te le souhaite. Amélie, où est-ce que les gens peuvent te trouver, te contacter s'ils ont des questions pour toi ou qu'ils souhaiteraient faire un test d'effort avec toi?
Pour l'instant, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Test and Perf, simplement, et puis une adresse mail info at testandperf.ch. Et puis tout soudain, j'ai un site internet qui va sortir, qui est prêt, mais qui attend juste de sortir. Et donc voilà, là, ce sera, je vous en dirai plus ou je te transmettrai le lien dès qu'il sera sorti, quoi.
Alors, assure-toi de m'envoyer le lien dès que le site est prêt, comme ça je l'ajouterai dans la description et les gens pourront directement aller te contacter là-bas. Amélie, merci d'avoir pris le temps pour ce podcast. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi à nouveau. Ça faisait un petit moment. Et bah, écoute, bonne suite dans tes activités. Je me réjouis de voir tout ça se développer.
Ouais, merci beaucoup à toi, Sean, et puis à bientôt pour d'autres aventures en physiologie, quoi.
On l'espère. Merci à toi.
Ça marche, merci. Ciao, ciao.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux soutenir le podcast, je te propose 2 options. 1, tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Et la deuxième option, tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami. Merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.